S'il y a une chose que j'espère plus tard, puis là, ça va être pratiquement émouvant comme segment, là, c'est de partir en n'ayant pas ou peu de regrets. T'sais, quand tu mènes ta vie, tu essaies d'aller chercher un petit peu de tout, de tes passions, de moments avec tes proches pour te dire, hey, regarde, mettons, puis d'ailleurs, on vient de le faire à la fin de l'année, on fait souvent ça, à la fin d'une année, un bilan. J'ai-tu passé assez de temps avec mes amis? J'ai-tu passé assez de temps avec ma famille? Est-ce que j'ai réalisé des rêves? T'sais, est-ce que j'ai fait quelque chose de plus? Est-ce que j'ai réalisé un objectif que je m'étais donné l'année précédente? Une forme de bilan en quelque sorte. Ça ressort sur Internet parce que c'est à Radio-Canada que Stéphane Bureau a fait une entrevue avec une psychiatre à ce sujet-là. C'est une psychologue qui s'appelle Bronnie Ware qui avait écrit un essai qui s'appelle « Les cinq plus grands regrets au moment de la mort ». Ça date pas de ce mois-ci, là, ça date pas d'hier. Mais au fond, elle avait fait le tour des gens pour savoir qu'est-ce que les gens regrettaient en fin de vie. Et il en était ressorti cinq principaux. Je vous les donne. Premièrement, avoir trop vécu en fonction de ce qu'on attendait de soi et pas assez en fonction de ses aspirations. Et ça, je pense pas que ça va en s'améliorant. Ça. J'ai l'impression que ce regret-là, plus ça va avancer, plus avec les médias sociaux, la tendance qu'on a à se comparer aux autres, on va risquer de regretter ça et de se dire, est-ce que ce que j'ai fait dans ma vie, c'était réellement parce que je voulais le faire, parce que j'aimais ça, ou c'est parce que les autres l'attendaient de moi?
Puis je me sentais valorisé dans le regard des autres. Tu sais.
Exact.
Je me sentais valorisé parce que les autres trouvaient que c'était bien.
Est-ce que quand je termine ma journée de travail, je suis content du travail que j'ai accompli parce que j'ai l'impression d'avoir donné mon 110% ou seulement parce que mes collègues m'ont donné une tape sur l'épaule? C'est un peu ça aussi. Là. Mm-hmm. Puis c'est aussi tout ce qui est la comparaison, la compétition sur les médias sociaux. C'est faire quelque chose juste pour montrer je l'ai fait comme vous ou plus que vous finalement. Deuxièmement, avoir trop travaillé et ne pas avoir consacré davantage de temps à ses proches. Préoccupation numéro un, je parle de notre génération.
Ben écoute, j'allais dire quasiment c'est un classique là, tu sais. Ouais. Mais je comprends très bien. Ça me surprend pas. Même moi, je te dis, on s'entend là, on est en début de carrière, toi et moi. Là.
Oui, absolument.
Mais déjà, je constate que puis c'est normal quand t'es en début de carrière, t'hérites un peu des chiffres de pendant que les autres sont en vacances, on s'entend. Mais il demeure que moi, c'est une préoccupation que j'ai réellement de me dire, ouais, moi, parce que je priorise très souvent le travail. Mm-hmm. Puis ça m'arrive de dire, ouais, là, j'aurais peut-être pu dire non à celle-là pour passer du temps en famille, par exemple.
Puis tu retrouves ça même dans des milieux qui sont traditionnellement très, très occupés, des milieux de workaholics. Je pense à des cabinets d'avocats. De plus en plus, il y a des jeunes qui disaient, hey, wow, moi, le 75 heures, 80 heures semaine, ça me tente pas. Moi, élever un enfant en étant tout le temps au bureau les soirs et les fins de semaine, ça me tente pas. Mais tu sais, ça va avoir des effets aussi. Là. Si les gens veulent moins travailler, ben nécessairement, la productivité, l'économie va s'en ressentir. Mais peut-être que c'est pour le mieux. Troisième regret le plus fréquent avant de mourir, ne pas avoir eu le courage d'exprimer ce qu'on ressentait. Donc, pas avoir été capable de verbaliser ce qu'on ressentait par rapport aux autres. Donc, c'est plus relationnel, finalement. C'est pas avoir été capable de dire ce qu'on pensait réellement. Dans une journée, posez-vous la question. Est-ce que vous dites vraiment ce que vous pensez? Ce que vous ressentez? La réponse est probablement non. Parce que quand tu dis vraiment ce que tu ressens ou ce que tu penses, souvent, ça passe mal.
Ben ça, ouais. Ça dépend. Tout ce qui est vraiment là dans les sentiments, là, puis tu sais, dans... Moi, quand j'ai pensé à ça, c'est plutôt, je me suis dit... quand t'es avec un proche, par exemple, puis tu sens que la fin arrive, là, t'as-tu réglé tout ce que t'avais à régler avec cette personne-là? Disons que t'as la chance de le faire, là. Il y a des gens qui partent tragiquement, t'as pas la chance nécessairement là, ouais. De leur parler avant, mais on a tous perdu aussi peut-être un proche en disant, j'ai eu le temps d'avoir une dernière conversation avec cette personne-là, j'ai-tu tout réglé? Puis ça, moi, ça me trotterait dans la tête. Mais... pour ce qui est de la vie en général, au quotidien, avec les collègues, je pense que je dis pas mal tout ce qui me passe par la tête.
Mais pas juste les collègues.
À radio, je pense que je dis pas mal tout ce qui me passe par la tête. C'est juste qu'il y a une façon de le dire, tu sais.
Ouais.
Sans être nécessairement vulgaire ou être méchant ou, tu sais...
Exact, mais tu sais, nous, on a un privilège, on a un micro aussi, tu sais, pour pouvoir dire ce qui nous passe
vrai.
Par la tête.
C'est vrai.
Beaucoup de gens qui ne l'ont pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens silencieux, tu sais, on parle souvent d'une expression surannée, là, mais majorité silencieuse. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ce privilège-là ou qui n'ont pas cette possibilité-là de s'exprimer et de dire réellement ce qu'il
y a. Je pense, mettons, un collègue dans un corridor que tu trouves fatigant ou je sais pas quoi.
Ouais.
Ben, tu sais, moi, en fait, je traite pas les autres de fatigants, mais je veux dire, je sais pas, moi, des relations de travail qui sont plus
moins
ou moins
harmonieuses.
Ben, écoute, quoi que je dis ça, mais j'en connais pas vraiment personnellement. Mm. Moi, mes relations sont assez harmonieuses, mais ça se dit, je pense. En autant que c'est fait poliment puis gentiment, je pense que il y a une manière de dire à peu près n'importe quoi.
Quatrième regret, ne pas avoir gardé suffisamment le contact avec ses amis. Est-ce que vous voyez assez souvent vos amis dans une année? Est-ce que vous avez l'impression, dans une année, vous les délaissez, que vous entretenez vos amitiés? Là, c'est une expression qu'on utilise souvent, mais entretenir ses amitiés, prendre des nouvelles des gens, rester proche d'une personne. Ça, je pense que c'est une des plus belles richesses que tu peux avoir. Tu sais, un ami d'enfance qui, par exemple, vient d'avoir son premier enfant. Ça m'est arrivé cette année, là. Mais ouais. Ça, c'est un moment qui est magique, c'est un moment qui est merveilleux. Tu sais, de grandir avec une personne, puis de l'accompagner à toutes les étapes de sa vie. Tu sais, il y a ta famille, mais il y a tes amis aussi. Puis le cinquième regret le plus fréquent avant de mourir, ne pas avoir vécu davantage dans le moment présent, le fameux carpe diem. Donc, profiter du moment.
J'ai jamais trop su qu'est-ce que ça voulait dire, moi, ça. Vivre dans le moment présent.
Ah, ben, les gens qui méditent vont
peut-être
dire
que je médite pas assez, ouais, c'est ça.
Vont dire que c'est d'avoir conscience de ce qui est autour de toi sans tout le temps être projeté dans l'avenir. Mais moi, je pense que c'est ça, c'est le projetage dans l'avenir tout le temps, tu sais.
Ah, ouais.
On a tout le temps hâte à quelque chose. J'avais croisé à un moment donné dans à l'époque où il y avait le conflit entre Uber et les chauffeurs de taxi, dans une manif, il y a un chauffeur de taxi, je me mets à jaser avec, puis là, il me dit, dans 2 mois, je m'en vais en Chine avec ma conjointe. Je fais, ah, ben, vous devez avoir hâte, hein. Non. J'ai pas hâte. Je fais comment ça
j'ai pas hâte.
Il dit, puis ça, je le dis souvent à ma femme, puis il dit, puis j'ai trouvé ça très, très sage et difficile à appliquer, mais il dit, quand t'as hâte à quelque chose, ça passe plus vite. Puis t'en profites moins. T'es mieux de laisser venir les choses, puis de profiter de chaque journée jusqu'à ce que t'arrives au voyage.
C'est sage. Je veux dire, comme toi, c'est sage, mais c'est difficile à appliquer.
C'est difficile à appliquer parce que, tu sais, je veux dire, quand t'as un voyage ou des vacances qui s'en viennent, nécessairement, t'as hâte. Mais lui, oui. Sa philosophie, c'est. Essayons d'apprécier chaque jour, même le quotidien, même quand c'est plate, même quand t'as moins l'impression que c'est trippant. Puis comme ça, à ce moment-là, quand t'arrives au moment où
ça ou la fameuse brasse, nostalgie, ça. C'était mieux dans le passé, comme nous écrit une auditrice au 25226. Ah, c'était donc mieux avant. Ah, dans notre temps, c'était donc bien le fun. Puis tu te rends compte que 20 ans plus tard, tu parles d'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, tu parlais d'il y a 15 ans.
Ouais, ça. Puis peut-être qu'un jour, on va arriver à ce moment-là dans la vie. Je pense que ça arrive à tout le monde. De dire, ah, c'était mieux dans le temps.
Ah, que dans le temps, à l'époque, jadis, naguère, auparavant, autrefois, c'était mieux.
Ah, je me suis surpris à dire, profite de ta jeunesse à ma nièce de 12 ans. Je me sens que ça fait vieux dans le temps des fêtes. Épouvantable. 13h57, c'est tout pour nous. Merci d'avoir été là. Merci, Paul.
Grand plaisir.